Bonjour à toutes et à tous, comme chaque semaine, je vous propose une revue de l'actualité de la semaine écoulée. Une semaine marquée par la disparition à 99 ans de Philippe de Mountbatten, époux d'Elizabeth II. Une disparition synonyme de trêve en Irlande du Nord, alors que des affrontements sur fond de Brexit ont enflammé Belfast. Aux États-Unis, Matt Gaetz, élu républicain de Floride et étoile montante du Trumpisme, est visé par des accusations de trafic sexuel. Joe Biden profite des déboires de la NRA pour relancer la lutte contre les armes à feu, la diplomatie européenne sous le feu des critiques après l'incident diplomatique survenu au cours de la rencontre de ses deux principaux responsables avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. À l'Est, la Russie accentue la pression militaire sur l'Ukraine. En France, l'Assemblée nationale a débuté le 8 avril l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie du député Olivier Falorni. Malgré un consensus, la loi a été freinée par la droite. Sur le terrain judiciaire, le corps d'Aurélie Vaquier, porté disparu depuis le 23 février 2021, a été retrouvé à son domicile dans l'Hérault. Son compagnon a été mis en examen pour meurtre sur conjoint. Pour le parquet national antiterroriste, un dossier se referme et un autre s'ouvre. Pour terminer, une page sportive. La 32e journée de Ligue 1 confronte la première place de Lille. Roland Garros repoussé d'une semaine dans l'espoir d'accueillir du public. Et le succès du japonais Hideki Matsuyama au Masters de golf à Augusta, premier majeur de la saison. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué officiel publié par le compte Twitter officiel de la famille royale britannique. Philippe de Mountbatten, duc d'Édimbourg, s'est éteint paisiblement vendredi 9 avril au matin au château de Windsor. L'époux de la reine Elisabeth II était âgé de 99 ans, il aurait eu 100 ans le 10 juin. Né à Corfou en Grèce, il avait rencontré la souveraine en 1939 alors qu'elle n'avait que 13 ans. Après avoir servi dans la Royal Navy lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de l'invasion de la Sicile par les forces alliées à l'été 1943, il avait épousé la future souveraine le 20 novembre 1947. Ses funérailles auront lieu le samedi 17 avril à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Il reposera aux côtés de la reine Victoria et de son époux, le prince Albert, dans les jardins de Frogmore House, dans la même ville. L'annonce du décès du prince consort a provoqué la mise en sommeil provisoire des Eure qui secouaient Belfast et plusieurs villes d'Irlande du Nord depuis près d'une semaine. Les partisans loyalistes, majoritairement issus de la communauté anglicane, sont favorables à l'appartenance au Royaume-Uni. Depuis le référendum sur la sortie de l'Union européenne le 23 juin 2016, les tensions sont croissantes autour de la frontière avec la République d'Irlande. Ces violences, condamnées conjointement par les premiers ministres britanniques Boris Johnson et l'administration Biden, sont le fruit d'un sentiment de trahison et de mensonge de la part du 10 Downing Street à propos de la frontière depuis la sortie officielle de l'UE le 1er janvier 2021. Aux États-Unis, une des étoiles montantes du Parti républicain empêtrée dans une affaire de trafic sexuel. Le Floridien Matt Gaetz, 38 ans, élu depuis 2016 à la Chambre des représentants, fidèle soutien de Donald Trump, est visé depuis fin 2020 par une enquête du ministère de la Justice, a révélé le New York Times. Il aurait eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans, l'âge de la majorité sexuelle étant fixé à 18 ans en Floride. L'enquête porte également sur l'usage par l'élu d'un site proposant de payer des jeunes femmes contre des faveurs sexuelles. Le comité d'éthique du Congrès a ouvert une enquête le concernant. De son côté, Joe Biden se lance dans une mission la plus périlleuse de son mandat. Le 46e président américain s'attaque à la libre circulation des armes à feu. Alors que le lobby pro-armes, la NRA, est en proie à de graves difficultés financières, présenté le 8 avril, le plan contre l'épidémie de violence par armes à feu a pour objectif principal de lutter contre la prolifération des armes fantômes, c'est-à-dire des armes livrées en kit ou fabriquées à partir d'imprimantes 3D et ne possédant pas de numéro de série, compliquant ainsi la tâche des enquêteurs en cas de fusillade. C'était le cas dans un lycée de Santa Clarita, en Californie, le 14 novembre 2019. Ces armes ne nécessitent aucun contrôle des antécédents ou de permis de possession. Le père de l'assaillant, jugé trop instable mentalement pour posséder une arme, avait fabriqué celle subtilisée par son fils, qui lui avait permis de faire 3 victimes avant de se suicider. Joe Biden a donné un mois à son procureur général Merrick Garland pour trouver une solution. La rencontre au sommet entre le président turc Recep Tayyip Erdogan d'un côté, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et Charles Michel, président du Parlement européen, de l'autre a viré à l'incident diplomatique cette semaine. Cette rencontre est intervenue après le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, fin mars, et les nombreuses tensions entre Européens et Turcs autour de gisements gaziers chypriotes. L'Allemande Ursula von der Leyen a été sciemment reléguée au second rang de la rencontre, placée sur un sofa tandis que les deux hommes prenaient place sur une chaise face aux médias. Ce sofa-gate a provoqué de nombreuses réactions à Bruxelles, visant notamment le dirigeant turc et le belge. Les représentants européens expliquent ne pas avoir voulu aggraver la situation par un incident public. Des responsables militaires ukrainiens et américains ont fait état de mouvements de troupes russes aux frontières entre les deux pays. Les régions concernées sont la Crimée, annexée malgré les protestations internationales en 2014, et la région séparatiste du Donbass. Si Moscou a tenté de rassurer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a dénoncé les manœuvres de Moscou qui tentent selon lui de créer une ambiance menaçante. Kiev a appelé ses alliés américains et européens à ne pas intervenir militairement pour éviter une guerre. Mais le Pentagone a annoncé avoir mis ses unités stationnées en Europe en phase de surveillance renforcée, en prévision d'une possible escalade. En France, l'actualité politique de la semaine a été marquée par l'examen du projet de loi sur la fin de vie, porté par l'élu du Parti radical de gauche, Olivier Falorni. Ce texte vise à permettre à une personne atteinte d'une maladie incurable de choisir le moment de sa mort, et donc de la provoquer par injection létale. La législation actuelle, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, permet une sédation profonde des malades et l'arrêt des traitements. Mais si le projet de loi présenté ce 8 avril au Palais Bourbon a reçu un large soutien de la plupart des groupes, comme en témoignent les 256 votes contre les 56 favorables à la suppression de l'article 1 qui autorise l'aide active à un malade, il n'a pas pu être voté dans son intégralité. La faute notamment aux 4000 amendements déposés, dont plus de la moitié issus du groupe Les Républicains, qui réclament du temps pour débattre et un vrai débat. Aucune date de reprise des débats n'est fixée, mais le président du groupe LREM, Christophe Castaner, s'est dit prêt à ce que la majorité reprenne le texte à son compte. Fait divers à présent avec un nouveau rebondissement macabre dans l'affaire de la disparition d'Aurélie Vaquier. Un corps correspondant au signalement de cette femme de 38 ans a été découvert vendredi 9 avril à son domicile de Bédarieux dans l'Hérault. Son compagnon, qui avait signalé sa disparition le 23 février, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint, a annoncé le procureur de la République de Béziers. Béziers à nouveau avec un nouveau projet d'attentat islamiste déjoué. Une jeune femme de 18 ans, radicalisée, a été arrêtée dans la nuit du 3 au 4 avril par le RAID et la DGSI, et mise en examen par le parquet national antiterroriste pour association de malfaiteurs terroristes criminels et détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes en relation avec une entreprise terroriste. Elle est soupçonnée d'avoir monté un projet d'attaque contre un lieu de culte chrétien le week-end des Pâques. Des bouteilles d'acétone, d'acide sulfurique et d'eau oxygénée ont été saisies lors de la perquisition à son domicile, ainsi que des notes pour la fabrication d'explosifs. Les condamnations sont tombées vendredi dans le cadre du projet d'attentat déjoué à Argenteuil en mars 2016. Reda Cricket, 39 ans, et ses deux co-accusés ont écopé de 24 ans de réclusion devant la cour d'assises spéciale de Paris. Si le principal accusé affirme avoir voulu commettre un braquage, les enquêteurs avaient saisi à son domicile 5 fusils d'assaut de Kalachnikov, des billes d'acier, une centaine de kilos d'une substance explosive appelée peroxyde d'acétone ou TATP et des explosifs industriels, laissant craindre une nouvelle attaque terroriste 2 jours après celle de l'aéroport de Bruxelles. La pousse des Alsaciens, une victoire acquise sans souffrir qui a permis de ménager les cadres et équidistance entre les deux chocs face au champion d'Europe en titre, le Bayern Munich, en quart de finale de la Ligue des Champions. Après une victoire au forceps 3-2 sous la neige bavaroise, Paris jouera ce mardi 13 avril le match retour au Parc des Princes. De son côté, Monaco a conservé la 3e place en battant Dijon 3-0, alors que Lyon a clôturé la journée par un succès également 3-0 contre Angers. À 6 journées de la fin, Lille est en tête avec 3 points d'avance sur le PSG, 4 sur Monaco et 5 sur l'Olympique Lyonnais. Les internationaux de France de tennis à Roland-Garros décalés d'une semaine dans l'espoir d'une amélioration de la situation sanitaire. L'organisation du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison espère pouvoir accueillir du public. Les matchs du tableau principal se disputeront du 30 mai au 13 juin, Porte d'Auteuil, à Paris. Pour terminer, un mot de golf avec une première historique à Augusta, dans l'état de Géorgie. Le japonais Hideki Matsuyama est devenu le premier représentant de son pays à remporter un tournoi majeur chez les hommes. Le 25e joueur mondial l'emporte d'un coup sur l'américain Will Zalatoris. Il a reçu des mains du tenant du titre, l'américain Dustin Johnson, la très convoitée veste verte. Côté français, Victor Pérez a manqué le cut de vendredi et n'est donc pas classé. Le deuxième majeur de la saison, le PGA Championship, aura lieu du 20 au 23 mai en Caroline du Sud. L'américain Colin Morikawa y remettra son titre en jeu. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre attention. Je vous donne rendez-vous lundi 19 avril pour une nouvelle revue d'actualité.